Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour à toutes et à tous. C'est l'histoire d'une lignée, une famille portée essentiellement par des femmes boiteuses, mais cette singularité peut aussi toucher les garçons. D'un siècle à l'autre, d'un continent à l'autre, de la Grande-Bretagne aux États-Unis, en passant par la Réunion et le Gabon, tous ces personnages habitent le monde, marqués selon les époques par l'esclavagisme, la colonisation, la révolution. Après deux volumes où nous avions déjà fait connaissance de certains des membres de cette famille, notre invité publie aujourd'hui un troisième chapitre, en quelque sorte, qui se lit d'ailleurs tout à fait indépendamment et qui explore la question de l'héritage. À travers l'une des premières femmes de la lignée, Jane, née en Cornouailles, en 1667, est déportée aux Amériques, où elle aura quatre filles. Bonjour Bessora.
Bonjour.
Voici donc « Vous, les ancêtres », publié aux éditions Jean-Claude Lattès, qui, chronologiquement, est peut-être le premier tome de ce projet littéraire et historique que vous poursuivez depuis 15 ans. Et intitulé « La dynastie des boiteux ». Est-ce que vous voulez bien, Bessora, nous rappeler quel est l'enjeu de l'écriture de cette saga ?
Alors, l'enjeu, il était double. C'était d'en faire une saga, c'est-à-dire de suivre des personnages et toute leur famille à travers plusieurs époques et puis plusieurs espaces géographiques. Mais c'était aussi de parler de la transmission, de la mémoire transgénérationnelle et de l'émancipation.
Et donc, tous ces personnages sont des boiteux ou des boiteuses. Pourquoi cette spécificité ?
Alors, ils ont tous quelque chose dont ils doivent se délivrer. Et leur boiterie est peut-être l'expression de ceux dont ils doivent se délivrer. Ou des destins qu'ils doivent accomplir.
Et aussi parce que c'est une figure un peu particulière dans la Bible ?
Parce que c'est presque une figure maléfique. D'ailleurs, Jane le dit à un moment qu'il est bien connu que les boiteux sont des êtres maléfiques. Et un peu plus tard, elle découvre des boiteux dans la Bible et elle a du mal à y croire. Parce que qu'est-ce que les boiteux viennent faire dans un verset biblique ?
Mais ça deviendra presque son étendard d'ailleurs.
Ça deviendra son étendard parce que elle est partie de pas grand-chose, elle est déportée aux Amériques où elle sert pendant 7 ans dans une plantation. Et lors de son service dans cette plantation, elle apprend à lire et elle découvre un verset qui promet un destin grandiose à une boiteuse. Donc elle finit par se convaincre qu'il s'agit d'elle. Et alors, une fois qu'elle est émancipée, elle se lance donc en route vers son destin grandiose, sauf qu'elle tombe sur un esclave qu'elle achète et qu'elle finit par épouser. Ce qui n'est pas une excellente idée d'épouser un esclave lorsqu'on se promet un destin grandiose, surtout à cette époque.
Alors nous y reviendrons parce que là, Bessora, vous avez synthétisé déjà la vie de Jane, qu'on découvre en vous lisant au début de Vous les ancêtres, presque dès la naissance. C'est un nourrisson, elle est abandonnée dans un panier qui flotte sur le fleuve. Donc là, on revient aussi à Moïse, grande figure biblique. Et puis elle est recueillie par une femme en Cornouailles. Nous sommes au XVIIe siècle. Et après une enfance un peu rude, cette jeune fille, Jane, donc accusée de vol à tort, va être envoyée aux Amériques. Est-ce que c'est une histoire vraie qui vous a inspiré, Bessora ?
Tout à fait, c'est une histoire vraie. Alors, c'était des histoires assez relativement courantes. Et là, je me suis plus particulièrement inspirée de l'histoire de Molly Banecki, qui est donc une jeune Anglaise qui effectivement a travaillé dans les plantations pendant quelques années et qui, après avoir été libérée, est elle-même devenue colon, propriétaire, et elle a acheté un esclave dont elle est devenue la maîtresse dans l'autre sens du terme et qu'elle a fini par épouser. Alors à l'époque, évidemment, c'est des mariages qui étaient interdits. Et il y avait quand même assez de femmes anglaises qui contrevenaient à cette règle pour que ça devienne une loi qui interdisait réellement ces mariages. Alors bon, elle a bravé cette loi, elle était hors la loi, elle a réussi à échapper aux peines qu'elle risquait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a eu des filles et que l'une de ses filles a donné naissance à un garçon qui, des années plus tard, est devenu le premier astronome noir et le premier astronome noir à avoir écrit un almanach.
Et donc tout ça est vrai ?
Et donc tout ça est vrai.
Et à quel moment découvrez-vous cette histoire, Bessora ? Et à quel moment décidez-vous que ce sera justement la première femme de toute cette lignée que vous avez commencé de raconter dans les deux autres livres précédents ?
Eh bien, il y a quelques années, j'entends parler de Benjamin Banneker, qui est le petit-fils. Et je lis à droite à gauche, je le retrouve aussi dans un livre de l'abbé Grégoire, qui s'appelle « De la littérature des nègres ». Et donc, je découvre qu'il est le petit-fils d'une Anglaise. Et ce qui m'interpelle, c'est que cette femme a en quelque sorte été effacée de sa généalogie. C'est-à-dire que Benjamin Banneker est réputé être né esclave et avoir été affranchi, alors qu'il est né libre, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir. Et il est réputé être de père et de mère esclaves africains ou africains. Donc on a complètement évacué la grand-mère anglaise. Et ça a peut-être quelque chose à voir avec cette interdiction de mariage mixte qui perdure dans le temps, même si c'est une interdiction qui a été levée. Elle persiste dans les inconscients collectifs. Et c'est cette femme qui m'a intéressée parce que je la vois un peu comme une féministe avant l'heure et un peu comme une antiraciste avant l'heure. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune notion des hiérarchies sociales ou raciales ou...
Est-ce qu'elle était boiteuse dans la réalité ?
Non, elle n'était pas boiteuse. Ça, c'est moi qui avais un petit problème de ménisque. Donc, je me suis permise d'en faire une boiteuse. Et ça m'intéressait d'autant plus qu'il existe effectivement dans la Bible un verset, dans le livre de Michée, dans l'Ancien Testament, qui promet la puissance à une boiteuse.
Et donc, c'est à partir de ce moment-là que vous vous dites que vous allez articuler comme ça un premier livre qui s'appelait Zone Mania, n'est-ce pas, roman, qui lui parlait d'un descendant plus lointain, un siècle plus tard, Johann, qu'on a découvert, et qui serait aussi l'aïeul de Jen, qu'on avait, elle, découverte dans Narcisse, Citizen Narcisse exactement. Et là, vous, par la fiction, vous reliez ces personnages.
Alors, j'articule toute l'histoire autour de Jane, qui est ma matriarche, qui est la fondatrice de cette dynastie, entre guillemets. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'elle n'était absolument pas une enfant désirée, qu'elle tue sa mère en naissant, et qu'elle-même ne désire au départ aucun enfant. Au point que lorsqu'elle se croit enceinte, hein, après un viol de son maître planteur, elle se renverse dans les escaliers, elle dévale les pentes en espérant
perdre le bébé.
Et finalement, elle devient quand même la matriarche d'une dynastie qui est complètement improbable et dont effectivement je raconte l'histoire de certains de ses descendants dans Zonomia, où il est question de Johann, qui lui naît à La Réunion et dont le rêve est d'aller... rencontrer le gorille au Gabon. Il en est un peu question dans Vous les ancêtres. Et je raconte l'histoire de Jane numéro 2, qui est la petite fille de la matriarche et qui, elle, vit une aventure entre le Maryland et Saint-Malo en France, peu après la Révolution américaine et un peu avant la Révolution française.
Donc on comprend en effet avec vous, Bessora, que ce qui vous intéresse, c'est la question de la transmission, mais de façon beaucoup plus large, c'est aussi la question de la mixité, de la féminité. Et pour preuve, cette expérience que Jen va connaître aux Amériques, elle est bannie de son propre pays et elle est mise en esclavage dans une plantation, d'ailleurs, dont ironiquement le maître est un Autrichien qui s'appelle Arnold Schwarz. Alors, c'est peut-être l'ancêtre de l'acteur et de l'homme politique Arnold Schwarzenegger.
Croyez-vous ?
Peut-être, peut-être.
Il est colossal, hein. Ouais. Il a les traits carrés, il a un petit accent. Donc, ouais, peut-être.
Oui, peut-être. Et en tout cas, là, Jen fait cette expérience de l'esclavage, ce qui vous permet, Bessora, de rappeler qu'il y avait aussi des personnes blanches dans ce commerce d'êtres humains.
Oui, tout à fait. Et je me souviens d'avoir entendu Toni Morrison en parler et dire que, justement, c'est quelque chose qu'on avait tendance à oublier parce que c'était pas dans l'intérêt des personnes de l'époque et des personnes d'aujourd'hui que les esclaves blancs et les esclaves noirs s'associent. Il valait mieux diviser pour mieux régner, quoi. Et Jane, comme beaucoup de ses serfs blancs à l'époque, arrive sur cette plantation où elle fait la rencontre de Sarah, qui est une esclave noire qui va l'initier à la culture du tabac, mais qui s'occupe aussi de la cuisine du maître. Alors elle lui prépare des Linzer Torte, et puis elle est extrêmement dévouée à la cause de la plantation, du moins du point de vue de son maître. Elle donne aussi son lait, hein, parce qu'elle a un petit garçon, donc elle a beaucoup de lait qu'elle donne. Et elles sont très proches toutes les deux, même si effectivement parmi elles, il y en a une qui est vouée à rester là toute sa vie et l'autre qui sera libérée dans 7 ans. Mais il n'empêche qu'elles partagent quand même dans le présent la même condition et qu'elles ont le même enjeu, c'est-à-dire en dépit de leur servitude, de trouver un horizon, de s'ouvrir un horizon à soi ou à sa descendance.
Donc, d'une certaine façon, Sora, en remettant au premier plan cette histoire qui avait été un peu oubliée, justement, des manuels d'histoire, c'est une façon de dire que la fiction vient restituer la vérité d'une histoire qui a été un peu éradiquée.
Oui, tout à fait. Et je pense que ça renvoie à des questions qu'on se pose beaucoup aujourd'hui autour du communautarisme, par exemple, et des cloisonnements identitaires. Parce que si Jane a été oubliée, un peu effacée de la généalogie de son descendant noir, je pense que c'est parce que d'abord c'est une femme, et que bon, pourquoi est-ce qu'une femme aurait de l'importance dans le destin de ses descendants? Et c'est aussi parce qu'elle est blanche, et que ça peut déranger quand même qu'un homme qu'on valorise parce qu'il est noir et que, comme noir, il a réussi à écrire un almanach. Si on vous dit que sa grand-mère qui lui a appris à lire était blanche, eh bien, ça dérange. Ça ne devrait pas, mais ça peut être dérangeant. Et je trouve que ça renvoie aux questions d'appropriation culturelle qu'on pose aujourd'hui, à cette espèce de cloisonnement qui fait que, voyez, moi, par exemple, je ne devrais pas écrire sur des personnages masculins ou des personnages qui ne seraient pas noirs ou qui ne seraient pas métisses. Et je ne pourrais pas me mettre en empathie avec des gens qui ne seraient pas de ma classe sociale ou qui n'auraient pas la même identité sexuelle que moi. Et Jane, bien qu'elle ait vécu plusieurs siècles avant nous, en fait, elle a une espèce de modernité et puis de conception réellement universaliste, pour le coup, qui fait qu'elle se fout de tout ça complètement.
Donc j'entends Bessora aussi, avec ce que vous nous dites, que cette question de l'appropriation culturelle ne vous enchante pas particulièrement et que vous n'y adhérez pas.
Ben non, parce que comme autrice, ça m'interroge sur la liberté de création. Vous savez que moi, il m'arrive par exemple de faire des traductions. Je travaille avec une traductrice coréenne. Si on applique le principe de l'appropriation culturelle, je ne peux pas traduire une autrice coréenne. Par ailleurs, je suis aussi prête-plume. Je peux travailler avec des hommes blancs. Si on applique le principe d'appropriation culturelle, je ne peux pas travailler avec des hommes blancs. Mais cette question, il ne faut pas non plus la négliger parce que j'ai l'impression que c'est un retour de bâton et que c'est le retour de bâton de quelque chose qu'on pourrait désigner comme une assignation identitaire. C'est-à-dire le fait que, encore aujourd'hui, un certain nombre de personnes sont assignées à une identité étrangère ou noire, malgré elles. Et donc, il y a peut-être comme une appropriation de ce stigmate et un effet boomerang qui fait que finalement, bon, bah, vous nous avez enfermés, bah, vous aussi. On va tous s'enfermer.
Alors, nous allons poursuivre cette exploration des ancêtres avec vous, Bessora, dans un instant. Mais traditionnellement, dans Littérature sans frontières, l'invité choisit le titre musical de cette pause. Qu'est-ce que vous aimeriez écouter maintenant?
J'aimerais écouter Errol Garner.
Voilà, c'est le choix de Bessora. Thank you. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Bessora, qui vient de publier ce nouveau roman intitulé « Vous, les ancêtres » aux éditions Jean-Claude Lattès. On l'a dit en effet que c'était une histoire de transmission, de tradition. Vous, les ancêtres, évoque aussi cette scène où le mari de Jen, votre personnage principal, met sous la table une assiette remplie de victuailles pour des ancêtres invisibles. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Alors, ça veut dire que... Alors, déjà, les ancêtres vous hantent. C'est pas forcément une bonne chose, mais ça peut aussi être une bonne chose. Et que les ancêtres sont de différentes sortes. Il y a ceux qui ont trouvé une nouvelle place, et cette place, elle peut être dans le corps de descendants ou elle peut être dans le corps d'animaux. Et il y a des ancêtres qui n'ont pas trouvé de place. Et ceux-là, il faut les nourrir. Parce que les autres, ils se nourrissent tout seuls puisqu'ils ont trouvé une nouvelle place. Et donc, pour cette raison, Baneka, qui est l'époux de Jane, tous les soirs, met une partie de son repas dans une écuelle qu'il met sous la table. Et c'est très, très mystérieux parce que le lendemain, Jane la retrouve vide. Alors, elle a du mal à comprendre parce que, enfin, dans la Bible, on ne parle pas de ça. Donc, si on ne parle pas de ça dans la Bible, c'est que ça ne doit pas exister. Alors, c'est quand même très, très mystérieux.
Alors, c'est une tradition qui vient d'où ?
Je ne sais plus exactement d'où elle vient, mais je pense que c'est une tradition qui est assez courante dans toutes sortes de populations un peu partout dans le monde, le fait de nourrir ses ancêtres.
Et donc, il y a d'autres ancêtres qui, eux, ont trouvé une place après leur mort terrestre et qui ont pu se réincarner dans des Njina, c'est ça ? Expliquez-nous, Bessora.
Alors, le Njina, il apparaît au début du texte. Jane en parle avec Sarah, qui a quelques notions et quelques conceptions sur les ancêtres. Et le Njina, finalement, s'avère être une espèce de créature monstrueuse avec beaucoup, beaucoup de poils. Et on finit par comprendre qu'en fait, le Njina, c'est le gorille. Et d'ailleurs, le nom savant du gorille, c'est Gorilla Njina. Et c'est le gorille que le descendant, l'ultime descendant, rencontre au Gabon. Et ce gorille est peut-être hanté par des ancêtres.
Il va y avoir en effet un face-à-face entre le descendant au Gabon un siècle plus tard et un gorille qui pourrait être une de ses ancêtres. Vous croyez à ces traditions, Bessora ?
Quand j'écris, je crois à absolument tout. Parce que je pense que les mythes donnent du sens à l'existence, permettent aux gens de se sentir moins démunis par rapport au mystère du monde, par rapport à la question de la mort. Et parce que je trouve que c'est très beau et que ça nous renvoie aussi à la question de la mémoire transgénérationnelle qu'on interroge aussi en psychanalyse depuis quelques années, parce qu'on commence à se rendre compte aussi sous nos latitudes qu'on est peut-être plus sous l'emprise de l'histoire de nos anciens, de nos ancêtres, qu'on l'imagine, et qu'il y a parfois des traumatismes ou des blessures psychologiques auxquels on peut remédier en questionnant le passé, en faisant ressurgir des secrets, par exemple. On sait que des secrets de famille, des non-dits, peuvent se cristalliser et faire constituer des traumas qui peuvent traverser les générations. Et je pense que ces histoires d'ancêtres incarnés dans des animaux et de rencontres entre des vivants et leurs ancêtres, c'est une manière poétique et lyrique de raconter ça. C'est dans ce sens-là que j'y crois. Parce que ça a du sens, parce que ça fait sens.
Et vous, vos ancêtres, Bessora, vous les connaissez ?
J'en connais quelques-uns. J'ai découvert, par exemple, il n'y a pas très longtemps, que j'avais un grand-père qui avait fait de la prison en Suisse pour trafic de fromage. Donc je suis assez fière d'avoir un ancêtre qui était trafiquant de fromage. Mais bon, au-delà de 2-3 générations... Je sais que du côté de mon père, en revanche, mon père connaissait le nom de ses ancêtres sur une 50aine de générations. C'est assez impressionnant. C'est quelque chose qu'il a appris enfant.
Et qu'il vous a transmise ?
Qu'il m'a transmis. Je lui ai demandé de me l'écrire. Et il m'a écrit ça. Il m'a écrit le nom de tous ses ancêtres. Donc j'ai ce papier à la maison. Et heureusement, il a pu me le transmettre avant de disparaître. Parce que c'est un vrai trésor. sans quoi j'aurais jamais su. Alors c'est des noms que je ne sais pas prononcer, hein, parce qu'ils sont enfants, mais enfin j'ai les noms des ancêtres de mon père. Bon, malheureusement, c'est que la souche paternelle, parce que, évidemment, mon père est gabonais, Fan, donc c'était patrilinéaire. Donc c'est les noms des pères, il n'y a pas les mères. Voilà.
Et vous êtes allé sur les traces de ces ancêtres dont vous avez la liste au Gabon pour peut-être retrouver d'autres archives ou pas ?
Non, pas du tout, parce que je suis dans un projet de fiction. Et ce qui m'intéressait, c'était là, c'était Jane, qui n'est pas dans ma généalogie à moi, hein. Mais qui aurait pu, qui aurait pu.
Alors revenons à Jane en effet un instant, puisque elle, son livre de chevet, c'est la Bible. Donc d'un côté la Bible, de l'autre côté des traditions plus orales, plus universelles. Donc ce que vous faites aussi, Bessera, c'est que vous tissez comme une tresse ces différentes origines, ces différents destins dans un roman.
Oui, parce qu'en fait, elles disent toutes à peu près la même chose, ou elles visent toutes à peu près au même objectif, qui est de s'expliquer le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce qu'on doit faire là une fois qu'on est là. Mais ça me permet aussi de prendre du recul par rapport à tout ça et de m'en amuser, parce qu'elle a quand même un rapport à la Bible qui était assez rigolo. C'est-à-dire qu'elle essaie, par exemple, de convaincre son mari que, en fait, tout est dans la Bible. Si l'écuelle aux morts n'est pas dans la Bible, c'est que ça n'existe pas. Et puis, lui, il a des mots très, très sévères pour la Bible. Et ils sont finalement assez amusants, tous les deux, dans le rapport qu'ils ont à leurs reliques et à leurs croyances.
Vous abordez aussi la question de la maternité d'une façon un peu sombre, où on sent que ces femmes, et Jane en premier, vous l'avez raconté tout à l'heure, ne voulait pas forcément avoir d'enfants. Elle aura 4 filles qui elles-mêmes auront, on ne dévoile rien, mais une relation très particulière avec l'enfantement et l'accouchement, qui, tel que vous nous le racontez, sont des moments terribles.
Sur la maternité, Jane, comme sa mère, n'a pas au départ un désir d'enfant. Et je trouve intéressant que même à cette époque, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a nécessairement envie d'avoir des enfants. Pour autant, une fois qu'elle devient mère, elle est dévorée par son amour maternel. Et son amour maternel dévore ses enfants. Donc, c'est aussi la question de la dévoration de l'amour, et en particulier de l'amour maternel, qui est une dévoration dont il faut essayer de se délivrer soi-même et dont les enfants doivent essayer de se délivrer eux aussi. Et c'est aussi peut-être parce qu'on a parfois l'intuition de cette dévoration qu'on ne veut pas d'enfants ou qu'une grossesse peut devenir insurmontable, ce qui est le cas pour une des filles de Jane.
Est-ce que c'est aussi la peur de transmettre justement la boîterie à ses enfants, puisque ce sera le cas ici?
C'est la peur de transmettre la boîterie qui est le fait d'être de travers, en fait, de ne pas être comme il faut, de ne pas être lisse. Et c'est aussi la peur de participer à la prolongation d'une généalogie. Parce que c'est quand même comme une responsabilité lourde d'être inscrit soi-même dans une généalogie et de poursuivre cette généalogie en y inscrivant ses propres enfants. Et du coup, en leur ouvrant la possibilité d'un choix de destin, mais aussi en les enfermant dans une généalogie dont ils vont hériter des traumas ou de tout ce qui peut aller de travers, mais sans en avoir conscience.
En tout cas, vous, Bessera, vous n'avez pas peur de faire des enfants à vos livres, puisque à chaque fois, vous enfantez de nouvelles générations.
Et j'accouche sans péridurale.
Donc c'est dur ?
Ouais, c'est dur, mais ça passe. Pas d'épisiotomie, rien, tout bien.
Et je crois qu'après ce volume qui, encore une fois, vous les ancêtres, peut se lire de façon tout à fait indépendante, vous pensez déjà à une quatrième histoire qui s'inscrirait où dans la chronologie entre Jane et Joanne?
Alors, la prochaine histoire, elle est déjà écrite, mais évidemment, il faut absolument que je la retravaille. Hein. C'est un premier jet. Elle va tourner autour de Joanna, donc la petite fille de Jane. Et Joanna, en fait, c'est Benjamin Banneker, le premier astronome noir, le premier homme à avoir écrit un almanach, sauf que j'en fais une femme.
Mais elle est déjà là, d'ailleurs.
Elle est déjà là.
Sous les traits féminins.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais. C'est pour ça que c'est génial d'être un écrivain, parce que on fait vraiment ce qu'on veut.
Et vous êtes sûre de vous arrêter à 4 livres, 4 enfants?
Oui, après c'est terminé, il y aura 4 bouquins sur la dynastie des Boiteux, et comme vous le dites, pas d'inquiétude, vous n'êtes pas obligé de les lire les 4, vous pouvez n'en lire qu'un, 2 ou 3. Vous pouvez tous les lire et vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre. Oui, formidable.
C'est ça la magie de la littérature. Merci beaucoup Bessora.
Merci.
D'être venue nous parler de Vous, les ancêtres, ce nouveau roman qui paraît aux éditions Jean-Claude Lattès.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.